Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série « Quelle est notre vocation céleste ?» Nous arrivons à l'étude numéro 10 et le thème sera « Les disciples sont l'épouse du Seigneur ». Pardonnez-moi. Voilà. Donc, j'ai dit, les disciples sont l'épouse du Seigneur. Nous avons dit précédemment que nous arrêterions plus loin sur cette question de l'épouse. Nous la verrons donc maintenant. Il est dit dans Ésaïe 54, verset 5, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Notez maintenant Ésaïe 62, verset 5. Comme un jeune homme se marie à une vierge, ainsi les fils te prendront pour épouse. Et comme la fiancée fait la joie de son époux, tu feras la joie de ton Dieu. Et maintenant Jérémie, chapitre 3, verset 14. Revenez, enfants rebelles, c'est ce que dit l'Éternel, car je suis votre époux. J'ai pris cela dans la version allemande, mais c'est pareil chez vous. Notez maintenant Jérémie, chapitre 31, versets 31 et 32. Là, il est dit, « Les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Cette alliance ne sera point semblable à celle que j'ai conçue avec leur père. » Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique j'ai été pour eux comme un époux, dit l'Éternel. Et maintenant, notez Malachie, chapitre 2, verset 11. Juda a perfidement agi et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Juda a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qui lui est cher, et il a épousé la fille d'un dieu étranger. C'est ainsi que se termine l'Ancien Testament. Et nous verrons maintenant comment finit le Nouveau Testament. Il est dit dans Die Offenbarung, donc Apocalypse, chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous, faisons éclater notre joie et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et notez encore Apocalypse 21, verset 2. Je vis aussi la sainte cité, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et notez Apocalypse chapitre 21, verset 9. Ainsi que le chapitre 22, verset 21. Voici ce que nous lisons. Nous avons vu que Dieu agit d'une manière particulière dans la dispensation où nous vivons. Donc, maintenant que vous avez lu ce que je viens de vous dire, je continue de vous dire, il constitue un Israël nouveau. C'est-à-dire un Israël céleste et spirituel. Nous avons vu l'infidélité de l'ancien Israël que Dieu a été obligé de mettre de côté, mais en même temps, nous voyons Dieu constituer son nouvel Israël céleste. Je répète, nous voyons maintenant Dieu constituer son nouvel Israël céleste. C'est ce qui est appelé la vocation céleste. Et il nous est dit que nous sommes appelés à être de Christ dans la vocation céleste. Nous avons donc, je répète, nous sommes maintenant appelés à être, et j'ajoute parce que c'est ça que j'aurais dû dire, nous sommes appelés maintenant, vous et moi qui m'écoutez, à être des disciples de Jésus-Christ dans la vocation céleste. Nous avons donc vu comment le Nouveau Testament reprend les idées de l'Ancien Testament et les fait entrer dans une signification spirituelle. Les titres donnés à l'ancien Israël sont dégagés et reportés sur le nouvel Israël, car bien que Dieu doive abandonner un instrument qu'il avait pourtant levé, il n'abandonne jamais sa pensée. Il n'abandonnera jamais son identité et son intention surtout. Et s'il ne peut pas réaliser, par exemple, son dessein par un instrument qui s'appellerait Dupont, il l'accomplira par un autre qui s'appellera peut-être Durand. Voyez-vous, nous avons vu que l'ancien Israël était appelé la famille de Dieu. La famille de Dieu. La maison de l'Éternel. L'héritier de Dieu pour tout son héritage, c'est-à-dire le troupeau de Dieu. Les enfants d'Israël étaient donc les brebis de Dieu. Et tous ces titres sont repris et reportés dans l'église du Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance. Le Nouvel Israël céleste, c'est la famille de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, la maison de Dieu. Et sa maison, c'est nous, c'est vous qui écoutez maintenant. Hébreux chapitre 3, verset 6. Vous êtes héritiers de Dieu et vous êtes co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8, verset 17. Donc vous êtes le troupeau de Dieu. Jésus dit, je suis le bon berger. Johannes, Saint Jean, chapitre 10, verset 11. Je répète cela parce que c'est quand même important. Donc j'ai dit, le nouvel Israël céleste, ça représente la famille de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, la maison de Dieu. Et sa maison, c'est nous. Hébreux chapitre 3, verset 6. Nous sommes, vous et moi, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains 8, verset 17. Nous sommes donc, vous et moi, le troupeau de Dieu. Et Jésus a dit, je suis le bon berger. Saint Jean chapitre 10, verset 11. Nous en arrivons maintenant à considérer un peu plus profondément l'épouse. Israël, comme nous l'avons vu dans ces passages variés des Saintes Écritures, était appelée l'épouse de Dieu. Ils nous disent que Dieu était un époux pour Israël. Nous remarquerons que bien que Israël ait été littéralement un homme, il est très souvent présenté sous la forme féminine. Ce n'est pas lui, mais c'est elle qui a été infidèle à Dieu en tant qu'épouse. Il avait donc racheté Israël par le sang précieux pour qu'il soit son épouse. Nous avons vu que la Pâque avait été une alliance de mariage. Et Jérémie, au chapitre 31, il dit que lorsque cette alliance a fait sortir Israël de l'Égypte, Dieu le prit par la main et est devenu pour lui un époux. Le sang de l'agneau de la Pâque était donc le sang d'une alliance de mariage entre le Seigneur et Israël, et cette nuit-là, il a uni Israël à lui-même, et il fut ainsi racheté par son sang précieux. Il n'est pas nécessaire de parler beaucoup à ceux qui connaissent l'Ancien Testament de l'amour de Dieu pour Israël, car c'est la chose la plus étonnante dans notre histoire. Lorsque nous pensons à ce que était Israël et que nous lisons l'histoire de ce peuple dans sa propre attitude, ça, c'est la chose la plus merveilleuse que d'entendre le Seigneur dire « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Je répète cela, « Je t'ai aimé d'un amour éternel ». Jérémie, chapitre 31, verset 3. Donc, Dieu n'a jamais abandonné cet amour. C'est encore un amour éternel. Mais il y a là un sanglot dans le cœur de Dieu. C'est un amour désappointé. C'est un amour qui est passablement décevant. Voyez-vous, l'Ancien Testament est cependant une révélation merveilleuse de l'amour de Dieu pour Israël, l'amour du cœur tout entier de Dieu pour une épouse. Et cet amour a été exprimé. Voyez la protection merveilleuse dont Dieu entoura, dont Dieu a entouré Israël. Il l'a protégé tout au long du chemin. Il lui a donné la nourriture et le vêtement et il nous est dit qu'il le conduisit sûrement. L'amour tendre, l'amour prévoyant, l'amour protecteur de Dieu, elle se retrouve partout dans l'Ancien Testament. Chers amis, quelle était la pensée et l'intention de Dieu en s'unissant à Israël? Il avait voulu qu'il soit à lui pour son plaisir. L'Éternel a pris plaisir en Israël. Il l'avait créé pour son propre plaisir, afin qu'il soit la satisfaction de son cœur. C'est là, naturellement, un mystère profond. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant désire-t-il quelque chose pour son plaisir? Pourquoi? Lui qui possède toutes choses et qui réellement n'a besoin de personne, il nous est cependant révélé comme étant celui qui a créé un peuple. Il l'a créé pour son plaisir. Et nous le voyons, il a créé toutes choses pour son plaisir. Il a créé le monde pour son plaisir. Il a créé tout ce qui est bon dans le monde pour son plaisir. Il a créé l'homme pour son plaisir. J'ajoute la femme. S'il vous plaît, ne soyez pas déçus, parce que c'est la parole de Dieu. Quand elle dit l'homme, elle comprend la femme automatiquement. Alors parfois j'ajoute, pour pas qu'il y ait de malentendus. Donc il a créé l'homme et la femme pour son plaisir. Et tout cela s'est éloigné de lui. Il dit donc, je vais recommencer. Et il a levé Israël. Son idée était qu'Israël lui apporte de la satisfaction alors que tout l'avait désappointé. L'épouse était donc pour le plaisir de l'époux. Ensuite, chers amis, Israël a été élevé afin d'être la révélation de l'Éternel. Dieu voulait se révéler à tout l'univers par Israël et ainsi montrer quel époux il est. Nous ne pouvons naturellement pas ramener tout cela à la vie actuelle et journalière, mais nous pouvons comprendre quelquefois par l'épouse elle-même ce que est son mari. Lorsque nous la regardons, que nous voyons comment elle est soutenue et soignée, nous pouvons dire qu'elle doit avoir un époux très bon. Oui, c'est le rôle d'un époux et d'une épouse. La pensée divine est précisément cela. Dieu désirait, il a désiré de révéler à tout cet univers quel Dieu d'amour il est vraiment en étant un époux pour Israël. Israël avait été élevé dans le langage du Nouveau Testament pour annoncer, je dis bien pour annoncer, les vertus de celui qui vous l'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Annoncer les vertus de celui qui vous a appelé ou qui vous l'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Ensuite, Israël avait été amené dans cette relation d'épouse du Seigneur pour le but de son accroissement, de son expansion. Pour ainsi dire, beaucoup d'autres, en dehors d'Israël, devaient naître pour le Seigneur. Oui, en dehors d'Israël. Sa famille devait donc s'étendre par le témoignage d'Israël. Les nations seront attirées par la lumière et par les rois, et les rois par l'éclat de tes rayons. Ésaïe 60, verset 3. Je répète, les nations seront attirées par ta lumière et les rois par l'éclat de tes rayons. Ésaïe, chapitre 60, verset 3. Donc, les nations devaient naître pour le Seigneur et l'épouse devait servir à l'expansion de l'Éternel lui-même. Ce sont les révélations que nous ont faites tous les prophètes. Ensuite et enfin, mystère des mystères, c'était encore une question pour le Seigneur d'avoir une compagne. Aucun de nous ne pouvons comprendre pourquoi le Seigneur désirait avoir une compagne. Il est possible d'être une épouse sans être une compagne. Voyez-vous la nuance? Plus d'une femme n'est pas forcément une réelle compagne pour son mari. Il ne trouve pas en elle une compagne. Elle est pour lui beaucoup, d'accord. Mais une chose lui manque, c'est le fait d'être une réelle compagne. Parfois, ceux qui ont la chance d'être mariés plus de 40 ans, eh bien oui, eux, ils comprennent ce que veut dire une réelle compagne et un réel compagnon. Peut-être, et c'est la raison pour laquelle il y a tant de mariages brisés aujourd'hui. Naturellement, la situation peut être le contraire. Mais la pensée de la compagne est la pensée la plus haute dans cette relation. Le Seigneur avait levé Israël pour avoir une compagne. Il est facile de voir comment Israël a été infidèle, je dis bien, dans toutes ces questions-là. Le moment est arrivé où le Seigneur ne put plus trouver son plaisir, il n'a plus pu trouver son plaisir en Israël, où il ne révéla plus au monde qui l'entourait quel Dieu il est, mais il, Israël, se tourna malheureusement vers d'autres dieux et refusa d'accomplir la mission universelle pour laquelle il avait été amené en union avec Dieu. Tout cela a eu comme résultat pour Dieu qu'il perdit sa compagne. Et l'Ancien Testament se termine sur cette note douloureuse. Une chose horrible s'est produite en Israël. Israël a laissé l'Éternel, son époux, et a cherché d'autres amis, et a refusé d'accepter le Rédempteur. Ainsi, pour l'Éternel, Israël mourut. En tant que nation, Israël est maintenant mort pour le Seigneur, mort, tandis qu'il vit toujours. Le Seigneur ne pouvait jamais épouser une autre compagne tant que Israël vivait. Israël est mort, je dis bien entre guillemets spirituellement. Il a pu donc prendre le Seigneur, l'Éternel, Yahvé l'Éternel, il a pu prendre une autre épouse. Et nous nous souvenons des propres paroles de l'apôtre Paul à cet égard. Il a dit que nous sommes maintenant, vous qui m'écoutez, l'épouse du Seigneur. Lorsque cette ancienne épouse mourut, Dieu en appela une autre, c'est-à-dire une nouvelle épouse. Le Nouveau Testament nous parle beaucoup, nous le savons, de cette nouvelle épouse. Le Seigneur Jésus, dans les évangiles, il s'appelle lui-même l'époux. Nous nous rappelons la parabole des vierges. Lorsque le cri s'est fait entendre, « Voici l'époux !» Saint Matthieu chapitre 25, verset 6. Et nous avons lu ces passages du livre de l'Apocalypse au sujet de la fiancée, l'épouse de l'agneau. Nous nous souvenons sans doute de ces paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. Christ a aimé l'Église et Christ Jésus s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier pour faire paraître devant lui cette Église pleine de gloire, sans tache ni ride. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 27. Et ceci vient ensuite, il est dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et je sais que par exemple, mon ami le pasteur Daniel Guillaume Gentil aime sa fiancée depuis de très très nombreuses années qui est son épouse. Alors je dis des fois sa fiancée, alors on rit de bon cœur. Oui, chers amis, je pense que le fait est établi, mais il nous faut revoir tous les traits de cette relation. Pourquoi sommes-nous unis au Seigneur? Pourquoi sommes-nous appelés chrétiens? Car si nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament, nous sommes donc liés au Seigneur dans une alliance de mariage. Oui, la même chose que Daniel est lié dans une alliance de mariage depuis de très très nombreuses années avec sa chère fiancée. C'est l'Église de Dieu qu'il est, qu'il s'est donc acquise par son propre sang. Jésus-Christ s'est acquis, vraiment on peut dire, l'Église de Dieu par son propre sang versé à la croix. Actes chapitre 20, verset 28. Comment nous approchons-nous de la table du Seigneur, par exemple? À n'importe quel moment, la table du Seigneur porte des noms souvent différents. Il y en a qui l'appellent la table du Seigneur, d'autres le repas du Seigneur, d'autres encore la Sainte Communion, et ainsi de suite. Ce n'est pas autant le nom que nous lui donnons que la signification qu'elle a pour nous, qui est par exemple la chose la plus importante. Mais savons-nous que chaque fois où nous nous approchons de la table du Seigneur, elle signifie pour lui que nous mettons notre main tout à nouveau dans son alliance. Dans son alliance. Je me tiens dans ma relation de mariage avec le Seigneur. Et ce pain signifie que je suis une seule chair avec Christ. Nous sommes un seul corps en lui, et son corps même est représenté par ce pain. Pour Dieu, la loi du mariage, au commencement, avait été « Ils deviendront une seule chair ». Genèse chapitre 2, verset 24. Jésus a dit « Ceci, ce pain, est mon corps ». Saint Matthieu 26, verset 26. Et lorsque nous prenons le pain, nous disons en fait « Je suis un seul corps avec Christ ». C'est la relation du mariage. Lorsque nous prenons la coupe, qui symbolise son sang, nous déclarons deux choses. Je partage la seule et même vie avec lui. Sa vie est ma vie. Et cela s'est accompli par une alliance en son sang. Telle est donc la signification profonde de la table du Seigneur, chers amis. Et cela, ce que nous déclarons chaque fois où nous nous approchons d'elle, c'est l'épouse qui dit « Vous et moi, je demeure dans l'alliance, je suis un avec mon Seigneur. » Je crois que ça vaut la peine que je répète ce que je viens de dire parce que c'est très important. Il est dit « Je me tiens dans ma relation de mariage maintenant avec le Seigneur. » Et ce pain, il signifie que je suis une seule chair avec Christ. Donc, nous sommes un seul corps en lui, et son corps même est représenté par ce pain. Pour Dieu, la loi du mariage, au commencement, avait été « Ils deviendront une seule chair ». Genèse chapitre 2, verset 24. Jésus a dit « Ceci, ce pain, est mon corps ». Saint Matthieu 26, verset 26. Et lorsque nous prenons le pain, nous disons en fait « Je suis maintenant un seul corps avec Christ ». C'est la relation du mariage. Lorsque nous prenons la coupe qui symbolise son sang, nous déclarons deux choses. Je partage la seule et même vie avec lui. Sa vie est ma vie. Et cela s'est accompli par une alliance en son sang. Telle est donc la signification profonde de la table du Seigneur. Chers amis, et cela, ce que nous déclare ou ce que nous déclarons chaque fois où nous nous approchons de la table du Seigneur. C'est l'épouse qui dit « vous et moi, je demeure, nous demeurons dans l'alliance. Je suis donc, nous sommes donc un avec notre Seigneur. » Nous chantons souvent « Jésus, mon berger, mon époux, mon ami ». Et c'est la nature de notre union avec lui. C'est là réellement ce que signifie être un chrétien. Puisse donc notre christianisme être délivré de tout ce qui serait moindre que cela. Mais lorsque la relation a été établie dans son sang, eh bien son but commence. Nous sommes à lui pour son plaisir et non pas pour le nôtre. Il nous a créés pour son plaisir, opérant en nous ce qui lui est agréable. Hébreux 13, verset 21. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Éphésiens chapitre 1, verset 12. Et afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Afin que vous et moi annoncions les vertus de celui qui vous, qui nous a appelés. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc, tout cela embrasse la vie chrétienne. Et c'est pourquoi il nous a attirés par les liens de son amour. Et c'est la raison de notre union avec Christ que nous soyons à son plaisir et qu'il trouve son plaisir en nous. Le moment arrive où il regardera son épouse et où il dira « Elle est une épouse glorieuse ». C'est dans ce but-là qu'il nous a attirés à lui afin de se révéler par nous. Peut-être nos têtes et nos cœurs se courbe-t-il maintenant? J'espère. Quelle triste révélation nous sommes de notre Seigneur. Nous sommes très loin de révéler Christ. Mais il prend un grand soin de nous. Il est vrai que ce n'est pas chose facile. Je suis d'accord. Et il ne rend pas la tâche facile non plus. Il semble qu'il nous mette souvent dans des situations difficiles afin que nous manifestions sa gloire. Il avait été donné à l'apôtre Paul une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour le souffleter. On a tout compris quand on lit « un ange de Satan pour le souffleter ». 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Savons-nous ce que signifie avoir une écharde dans la chair et un ange de Satan qui nous soufflette sans cesse? L'apôtre Paul nous dit qu'il a apporté cela trois fois au Seigneur, mais je pense qu'il a voulu dire « J'ai pris le Seigneur, je l'ai prié intensément ». D'enlever cette écharde, encore et encore et encore. J'ai supplié le Seigneur d'enlever cette écharde et de détruire ce messager de Satan. Mais le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. » 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. C'est une étrange souveraineté et une étrange providence de Dieu. Il semble parfois qu'il mette des difficultés dans notre vie et qu'il rend le chemin dur pour nous. Et ensuite, dans la grâce qu'il nous témoigne, nous le glorifions. Personne ne sait exactement ce que était l'écharde de l'apôtre Paul. Ce que était vraiment l'écharde de l'apôtre Paul. Beaucoup de chrétiens le soupçonnent et d'autres pensent le savoir, mais je ne pense pas que personne puisse vraiment tout comprendre. Cela est évidemment quelque chose que l'on pouvait remarquer en disant « Oh, l'apôtre Paul est très éprouvé par cela. Je suis heureux de ce que le Seigneur ne m'ait pas appelé à suivre un chemin aussi dur. Ce pauvre homme doit connaître ce que est la souffrance, mais combien merveilleuse est tout de même la grâce du Seigneur en lui. Oui, remarquez son esprit victorieux. Et l'apôtre Paul dit, et elle glorifiait Dieu en mon sujet. Galates chapitre 1, verset 24. Oui, tout cela afin que le Seigneur soit révélé que l'Église est une Église qui doit parfois souffrir. Cette épouse du Seigneur est une épouse qui souffre, mais la révélation de sa grâce, ça c'est quelque chose de merveilleux. Qu'en est-il ensuite de son accroissement par l'Église? Nous en avons déjà parlé beaucoup. Le Seigneur, par son Église, veut amener beaucoup, beaucoup d'âmes dans le royaume. L'apôtre Paul a dit, l'Évangile qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Colossiens chapitre 1, verset 23. Et l'apôtre Pierre a déclaré, le Seigneur voulant que personne ne périsse, mais que tous, au contraire, viennent à la repentance. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés, et il n'a jamais demandé à son Église d'aller en chercher un ici et l'autre là-bas derrière la montagne. Il a dit, prêchez l'Évangile à toutes les nations, oui, partout, et avec tous les moyens qui sont à votre disposition. C'est la mission universelle du Nouvel Israël. Mais ne la considérons pas simplement d'une manière générale. Chers amis, courbons-nous. Oui, courbons-nous le matin pour faire de cela notre devoir personnel, pour voir si, d'une manière ou de l'autre, nous pouvons amener des âmes dans le royaume. Après avoir dit tout cela, nous arrivons à cette chose suprême. Il nous a, le Seigneur, unis à lui pour que nous soyons ses disciples. Et cela a été notre note tout au long de ces méditations. Nous avons été rendus disciples, compagnons de Christ. Et c'est pourquoi, frères saints, compagnons, disciples de la vocation céleste, je confesse, ne pas comprendre totalement tout ceci, que le Seigneur désire faire de nous ses amis, non seulement unis officiellement à lui, mais carrément lié à lui comme ses vrais amis. Être un ami du Seigneur, je ne puis que vous dire ceci, gardons ce mot et demandons-nous continuellement comment un ami agirait-il en cette question? Quelle décision prendrait un ami? Je suis appelé à être l'ami du Seigneur. Je ne dois pas manquer à mon rôle d'ami, je ne dois pas le décevoir dans ce lien d'ami, je ne dois pas le lâcher, car il compte sur moi comme son ami. C'est la part la plus haute et la plus sacrée de toute cette relation. Chers amis, je crains de ne pouvoir vous exprimer tout ce que je vois dans cette question. Après tout, ce temps, après tout ce temps-là, nous n'avons pas encore touché à la Nouvelle Jérusalem. C'est une chose très significative de voir la Nouvelle Jérusalem appelée une épouse. En effet, l'ange, il dit à l'apôtre Jean, il lui dit, viens, je te montrerai la fiancée, je te montrerai l'épouse de l'agneau. Et l'apôtre Jean aurait pu répondre, allons donc voir cette femme merveilleuse. Et il me montra la cité sainte, la Jérusalem, qui qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, selon la révélation, Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 10. Excusez-moi. En effet, voyez-vous, l'épouse, c'est donc, on a compris, c'est la cité. Et la cité est l'épouse. Il nous faut lire ensuite toute la description de la cité dans les chapitres 21 et 22 pour mieux comprendre ce que sera l'épouse. Voyons toutes les pierres précieuses. Elles sont la valeur précieuse du Seigneur Jésus dans toute son expression si divers. L'apôtre Pierre dit, pour vous qui croyez, elle a ce prix-là, cette épouse, cette nouvelle Jérusalem qui descend auprès de Dieu. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 7. Il y a donc des pierres précieuses de toute espèce. Elles représentent ce que est Jésus, ce qu'il représente dans son réel caractère révélé dans l'épouse qui est la cité. Cessons donc de penser à une cité littérale. Tout cela est une représentation symbolique de l'épouse de Christ. Toutes ces gloires de la cité ne sont que les gloires de Christ exprimées à la fin dans son épouse. Il me montra, est-il dit, la cité sainte, la Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, resplendissante de la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse. Elle resplendissait à travers toutes ses perles. C'est à tout cela que pensait l'apôtre lorsqu'il a dit « pour faire paraître devant lui cette église pleine de gloire ». Oui, une église glorieuse. Éphésiens chapitre 5, verset 27. La cité est la révélation de ses gloires infinies et la cité représente l'épouse. Il nous faut maintenant terminer par ce dernier mot. Nous avons là des idées très belles et merveilleuses. Ce sont de glorieuses pensées et c'est précisément à cela que le Seigneur nous a appelés. C'est-à-dire, tout cela est une vocation céleste. C'est dans ce but-là qu'il désire nous avoir comme ses disciples. Il désire, vous qui écoutez, de vous avoir comme ses disciples, comme ses compagnons, d'une vocation céleste, parce que compagnons ou disciples de Jésus-Christ. L'on hésite souvent à lâcher une note qui pourrait paraître un peu déprimante, mais souvenons-nous que cette grande lettre aux Hébreux renferme plusieurs « si » ou « pourvu que ». Sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement. Hébreux 3, verset 6. Nous sommes donc les compagnons, les disciples de Christ, si nous retenons fermement. Hébreux 3, verset 14. Oui, chers amis, cette lettre est toute remplie d'avertissements et de fortes exhortations. Et elle a été écrite à des chrétiens. Et c'est pourquoi, leur dit-elle, ne perdez pas votre héritage, ne lâchez pas votre vocation céleste, ne manquez pas d'être de fidèles compagnons de Christ, n'acceptez rien de moins que ce que Dieu a de meilleur et de plus haut. Il est possible d'être un chrétien tout en ayant quelque chose de beaucoup moindre que la pensée de Dieu. Remarquons que lorsque la description de la cité a été donnée, il est dit « Heureux ceux qui ont le droit d'entrer ». Apocalypse 22, verset 14. Attention, attention, il y aura des nations qui n'entreront pas. Elles marcheront un peu à sa lumière, mais ne seront pas à l'intérieur. Prenons donc garde à faire partie de cette épouse pseudo-chrétienne. Ne soyons pas infidèles au Seigneur comme Israël a été. Avançons, vous qui m'écoutez, vers l'état d'homme fait. Hébreux chapitre 6, verset 1. Et chers amis, pour terminer, je voudrais vous dire que en 1962, j'avais composé un chant, le psaume 23, à ma manière, pour rappeler un peu les montagnes suisses, puisque je suis un Suisse toto, il faut bien rire un peu, mais c'est vrai. Et donc, j'avais chanté en ce temps-là, très lointain maintenant, ce chant-là, et j'avais même joué ce chant avec trois instruments différents. Tout cela, je l'avais appris par moi-même, avec l'aide de l'Esprit-Saint, sans leçon, sans rien, comme le français que je vous parle, puisque j'ai fait que 4 ans d'école primaire en Suisse allemande, avec un père qui s'est marié 5 fois. C'était épouvantable, une histoire très triste. Mais j'ai été plusieurs fois entre la vie et la mort. Tout de même, malgré que je me suis éloigné du Seigneur, et j'en ai honte, oui, honte, honte, vraiment honte, et le Seigneur m'a toujours rattrapé, et il m'a, je ne comprends pas, parce que je ne le mérite pas, il m'a toujours béni, malgré mes erreurs, ma désobéissance, et il m'a guéri plusieurs fois que j'étais entre la vie et la mort, encore dernièrement, puisque j'ai 89 ans. Eh bien, encore il y a 2 ans, on m'a transporté aux soins intensifs à l'hôpital. Double infection pulmonaire. Et le chef médecin est venu à mon chevet. J'avais donc tout des... Oui, enfin, je ne sais pas comment on appelle tout ça là, toutes ces choses qui vous plantent. Et il m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne s'acharne pas sur vous? Parce que c'est la fin. J'ai répondu, mais je suis prêt de m'en aller. Je suis prêt de m'en aller. Et, chers amis, 2 jours plus tard, la pasteur Sabina Reichenbach, pasteur de l'église protestante des Eaux Vives à Genève, est venue et m'a aidé à sortir de là en taxi pour dire c'est super fabuleux. Et il peut vous qu'écouter, vous toucher de sa main guérissante, car c'est par ses meurtrissures que vous serez guéri. Il est le même aujourd'hui qu'il a été autrefois, et cela pour l'éternité. Donc, je vais vous mettre ce chant que j'ai composé en 1962, et j'essayerai de chanter la deuxième strophe avec l'enregistrement qui a été fait sur cassette en ce temps-là. Et bien sûr que vous comprendrez qu'à 89 ans, on ne peut pas chanter comme quand j'étais un jeune homme, évidemment. Chers amis, je vais vous mettre donc maintenant, si c'est possible, ce chant.
Je ne manquerai de rien, je me laisse diriger par sa divine houlette. Puis il me fait goûter la paix d'un de fertile pluie. Il me conduit au bord du ruisseau tranquille. À l'ombre de tes ailes, je suis paisible et sous sa garde, j'ai la paix. Oh la 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 di, oh la la di, oh la 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 di, oh la la, oh la la di, oh di, oh la la di, oh la, oh la 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 di, oh la la di, oh la la di, oh la la, oh la la di, oh di, oh di, oh la, oh la la, oh la la di.
C'est danser vers pâturage qu'il fait bon se reposer. Le doux langage du divin et bon berger. Puis il me fait goûter la paix dans de fertiles prés. Il me conduit au bord des ruisseaux tranquilles. À l'ombre de tes ailes, je suis paisible. Et sous sa garde j'ai la paix. Oh la 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 die, oh la la die, oh la la die, yo pa la la, oh la la die, die, tu die, oh la la die, die, oh la la die, oh la la die, oh la la die, die, tu die, oh la la die, die, tu die, oh. Maintenant, d'autres instruments. Eh bien non, malheureusement, ah, voilà. Ça, c'est donc une sitar, eine Zither. Thank you.
Hololadio, hololadio, yopalala, hololadio, die, dulio, hololadio, die, hololadio, 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 yopalala, hololadio, die, dulio, hololadio, 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 hololadio,
Donc, chers amis, cela a été il y a fort, fort longtemps. C'est-à-dire, on peut bien dire que c'était en 1962, et forcément, vous comprendrez qu'aujourd'hui, je chante, je pourrais encore chanter ce chant-là, malgré mes 89 ans, bientôt 90 ans, ou en français 90 ans. Bien sûr, c'est un miracle. On doit reconnaître, et je le reconnais. Et le Seigneur est prêt de faire des miracles pour vous. Vous pouvez écouter, si vous possédez Internet, moi je ne le possède pas, mais si vous possédez Internet, toutes les études que j'ai faites, il y en a des milliers, et là, il y a des séries sur la guérison qui peuvent vous aider tellement merveilleusement. Croyez-moi, le Seigneur, il vous aime. Il n'a pas seulement aimé moi qui s'était éloigné, qui s'est écarté du chemin. Mais il vous aime, vous, encore plus et il veut vous venir en aide. Il désire vous aider. Et là, vous avez des tas de thèmes. Ainsi, je vous conseille par exemple d'écouter le témoignage de Marietta. Incroyable, magnifique, mais vrai. Et beaucoup d'autres séries d'études. C'est 3 fois W, donc www, Bible explique en un seul mot, .ch. Et vous pouvez trouver des quantités d'études de la Sainte Bible. À bientôt à nouveau, demain matin, Dieu voulant, pour la suite de la série que nous avons. Et après, il y aura d'autres séries, si Dieu me donne encore vie. Parce que chaque jour, c'est un miracle. Et c'est lui qui a ma main entre... ma vie entre ses mains, pardon. C'est lui qui décide, c'est lui qui décide. Et il vous aime, il nous aime. Chers amis, je vous aime tous, mais je ne pourrai jamais vous aimer autant que Jésus-Christ vous aime. À bientôt, à demain matin, pour la suite. Alléluia.